Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eriomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je reçois Evin Dio, qui est à la tête du fonds d'investissement We Capital. Le WIC a débuté au Sénégal il y a quelques années en tant que club d'investissement et l'initiative est tout simplement géniale. Ce sont des femmes sénégalaises qui ont regroupé du capital pour investir dans des entrepreneurs et des femmes dirigeantes de PME. La vraie beauté du WIC, c'est qu'elle démontre qu'investir dans les femmes, c'est plus que rentable. C'est un excellent retour sur investissement. Pourtant, on sait, les investissements sur les femmes sont encore trop limités en Europe comme en Afrique. Le WIC Capital nous montre qu'il est grand temps pour les investisseurs d'être plus intelligents. Je vous laisse avec Evin qui nous raconte son impact, son action au quotidien et aussi son parcours. Bon épisode. Bienvenue Evin, bienvenue sur le podcast Africa's Investor Call. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur notre podcast, notamment parce que WIC Capital, qui est la structure que tu diriges, j'en ai entendu parler par plusieurs interlocuteurs. Et je suis ravie de pouvoir en parler plus en détail avec toi. Mais avant de plonger directement dans le cœur de l'épisode, je t'invite à te présenter ton parcours, comment tu en es arrivé là. Et puis après on se focus sur le WIC.
Oui, merci. Bonjour. Bonjour Ayumi. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger sur les prochaines minutes sur WIC Capital et la merveilleuse aventure que c'est au Sénégal. Alors moi, mon parcours très rapidement, avant de lancer WIC Capital en 2019, j'ai travaillé pour le Fonds CIS, qui est le fonds souverain du Sénégal, que j'ai rejoint en 2014. Donc à l'époque, le fonds était en train de se mettre en place. Et donc j'y ai, en tant que chargée d'investissement, j'y ai géré des investissements dans plusieurs secteurs, bien sûr des PPP, donc des investissements dans les infrastructures, notamment des centrales solaires, mais aussi je travaillais sur des deals purement secteur privé, portés par des Sénégalais, par des entrepreneurs sénégalais. Et pour le coup, ça, c'était vraiment le kiff pour moi. Ce que j'aimais, c'était travailler avec le secteur privé. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est au niveau du Fonds CIS que j'ai découvert un peu ce que j'appelle aujourd'hui ma mission de vie, qui est de travailler avec des entrepreneurs pour renforcer le secteur privé africain. Et avant de rejoindre Fonds CIS, donc j'ai rejoint Fonds CIS quand je rentrais au Sénégal. J'avais commencé ma carrière en banque en France. J'ai travaillé pour le groupe Société Générale et j'ai travaillé au sein de l'inspection du groupe qui est un corps d'audit et de conseil. Donc on avait pour mission de revoir des lignes métiers entières ou des filiales du groupe. Et c'est vraiment là que je pense que j'ai appris toutes les bases qui m'ont servi ensuite dans l'investissement, c'est des bases de revue, de savoir revoir en profondeur un business, mais toujours avec un mindset de conseil. OK, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui et qu'est-ce qui peut être amélioré pour être plus performant. Voilà, okay. C'est moi et mes machins.
Ton parcours, tu as fait tes études en France ou au Sénégal?
Oui, alors je suis partie du Sénégal quand j'avais 17 ans, un peu moins de 18 ans, pour faire une classe préparatoire à Paris. J'ai fait le lycée Louis-le-Grand. Et étonnamment, j'ai fait une cagne. J'ai fait une prépa littéraire. Ah oui. Et ma spé, c'était la littérature allemande.
Littérature allemande. Ah ouais, c'est intéressant.
Ouais. Et puis, je suis passée en école de commerce. J'ai intégré l'EDEC. Puis, je suis tombée... Enfin, franchement, en entrant en école, je ne voulais pas faire de la finance. Je suis tombée sur la finance petit à petit, au gré des stages. En fait, quand on a fait une prépa littéraire et qu'on va en école de commerce, à l'époque, on nous parlait de management des institutions culturelles, genre j'ai un musée, j'ai un théâtre, ce genre de choses. Ouais. Ou alors, ceux qui me semblaient être les low-hanging fruit, c'était peut-être RH, tu vois. Okay. Et je me rappelle, en année de césure, je cherchais un stage en cabinet RH et puis j'ai eu l'opportunité de faire la première moitié de ma césure chez Alstom, dans le département contrôle de gestion, donc sur du contrôle de gestion projet. Et donc, c'est là que je commence vraiment à m'élargir. Donc, je me dis, en fait, c'est pas compliqué, hein. Et deux, ça te permet de de découvrir tout type de secteur. Donc là, j'étais en plein Alstom Power, donc c'était des projets de construction de centrales. Et donc le rôle de la finance est assez central parce que du coup tu travailles avec tous les métiers qui sont impliqués dans le projet pour gérer les coûts, projeter, gérer le modèle financier, etc.
Ouais, la
Et
vision.
donc ils m'ont donné l'opportunité de faire ma deuxième moitié de césure chez Alstom en Allemagne, toujours
OK.
sur un autre type de contrôle de gestion qui était moins passionnant mais toujours de la finance. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'aller en dernière année, donc année de spé. De faire la MSI, je fais une MSI Management Control, donc c'est tout ce qui était contrôle de gestion, audit, etc. Et après, j'ai fait le concours de l'inspection et je me suis retrouvée en banque. Donc j'ai quand même eu la chance, et c'est ça l'importance des stages finalement, de découvrir ma voie un peu par hasard, parce que sinon peut-être que je serais aujourd'hui en RH, quoi, en train de peut-être m'ennuyer.
OK. Merci pour le résumé de ton parcours. Et maintenant, on peut parler de ce qui t'occupe, tes journées, tes nuits, j'imagine aussi. C'est Week Capital. Du coup, si on commence par le début, est-ce que tu peux parler de l'histoire et le pourquoi de la création du fonds et un peu autour de la thèse d'investissement de cette structure?
En fait, l'histoire est clé pour comprendre qui on est au niveau de Week Capital. C'est un fonds aujourd'hui, mais ça a été lancé par un groupe de femmes au Sénégal qui sont regroupées au sein du WIC, qui est le Women's Investment Club. Et WIC Sénégal existe depuis 2016 et ça a été lancé par quatre femmes du secteur privé sénégalais qui ont juste voulu apporter une solution concrète au ce qu'on appelle le Gender Finance Gap, le gap de financement lié au genre. Et elles se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de notre position de privilège pour que les femmes entrepreneurs aient accès à plus de ressources, notamment financières, et qu'elles puissent croître et développer leurs activités. Et donc, elles ont eu l'idée de créer un club d'investissement. Et donc, très vite, le club est passé des 4 membres initiaux à 80 au moment où on créait WIC Capital en 2019. Et puis aujourd'hui, on est 99, je pense qu'on a atteint le maximum du club. Entre-temps, il y a eu un WIC Côte d'Ivoire qui s'est créé aussi en réplication de notre modèle. Et aujourd'hui, c'est le WIC Sénégal et le WIC Côte d'Ivoire qui sont en sponsor de WIC Capital. Et donc, concrètement, ces clubs d'investissement-là, c'est des femmes qui apportent un investissement, qui investissent ensemble. Initialement, ces ressources étaient placées au niveau de la bourse, avec un objectif de faire fructifier l'épargne avant de mettre en place le fonds. Et puis, sur notre premier fonds, les membres ont investi dans le fonds. Et puis, l'équipe qu'on est, on est allé chercher d'autres ressources institutionnelles. Bon, bien sûr, après, pour revenir un peu peut-être sur l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'entrepreneuriat féminin est quand même très développé dans nos pays. Un pays comme le Sénégal, c'est plus de 30%, 31% des chefs d'entreprise qui sont des femmes, des entrepreneurs qui sont des femmes. Donc, c'est plus que la moyenne globale. Je pense qu'au niveau global, on est à 25%. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, c'est des business qui sont essentiellement des micros, des TPE ou des toutes petites entreprises ou des petites entreprises. Donc généralement, on est en deçà de 100 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de francs CFA. Donc ça, c'est à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et donc nous, on voyait ça. Et donc avec cette petite taille-là, bien entendu, c'est super difficile d'être formel complètement. Une entreprise formelle étant une entreprise qui a une comptabilité aux normes, etc. Donc, c'est super difficile d'être formel, d'accéder à des ressources essentielles à la croissance. Donc, qu'il s'agisse du capital humain ou, par exemple, de la technologie. Et pourtant, nous, on voyait quand même une opportunité dans ces business-là en termes d'impact, en termes de. En fait, en réalité, le risque, il est moins élevé. Il y avait énormément de données à ce moment-là qui démontraient qu'il y avait un risque moins élevé que ce qu'on pensait, et surtout une rentabilité aussi plus élevée sur les entreprises dirigées par les femmes. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer un mécanisme de financement pour adresser les besoins des entrepreneurs. C'est comme ça qu'on a lancé notre premier fonds en 2019, donc WIC Capital. On l'a structuré comme un véhicule local, un peu à l'image des fonds monopays du réseau IEP. Au Sénégal, on a Teranga Capital, en Côte d'Ivoire, on a Komowé. Et donc, c'est des fonds aussi, c'est des fonds locaux. Donc, nous, ça nous a donné un peu le courage de nous lancer
Passé.
aussi. On a structuré un véhicule local. On a commencé avec très peu de ressources du REACH. Aujourd'hui, ce fonds a atteint 5 millions d'euros. Okay. On a arrêté de lever de ce premier fonds et on est en train de lever un deuxième. Okay. Et donc, pour revenir à la thèse d'investissement, parce que tu l'as mentionné, la thèse, c'est vraiment libérer le potentiel des entreprises dirigées par des femmes en agissant sur trois leviers. Donc, l'apport de capital, du capital adéquat, accessible, de l'assistance technique dédiée et les réseaux. Et donc, les réseaux, ça revient toujours au monde du WIC. On a aujourd'hui plus de 130 femmes entre les deux WIC, hein, Sénégal et Côte d'Ivoire. Mm-hmm. C'est des femmes en moyenne avec 20 ans d'expérience en affaires.
Oui, okay.
Et ces femmes-là, au-delà du capital qu'elles apportent, elles apportent aussi leur réseau d'affaires. Je me rappelle, sur un des investissements qu'on a fait, l'entreprise avait besoin d'une autorisation d'ouverture. C'était vraiment en train de traîner, mm-hmm. On connaît les démarches administratives.
Ouais,
on a remonté le point au réseau. Elle a eu l'autorisation dans la semaine, pour ne pas dire dans la journée, on a pu avoir l'autorité compétente qui a vraiment appuyé pour que cette entreprise puisse ouvrir à temps et ne pas louper des opportunités. Donc voilà, elles sont vraiment à ce stade de leur vie où elles ont envie de partager. Mmh. Et donc elles sont des mentors, elles siègent au niveau des conseils d'administration de ces entreprises-là, parce qu'à chaque fois qu'on investit, on met en place la gouvernance. Ouais. Je pense que c'est très important pour une entreprise d'avoir une gouvernance claire dès le début et de croître de façon saine, sans accumuler les lacunes. Hein.
Ouais.
Donc ça, c'est le volet réseau, le volet TA, technique, assistance technique. Mm-hmm. Là, on a un an après avoir lancé WIC Capital, on a lancé la WIC Academy en 2020, qui est une structure au sein du WIC, donc de l'association, qui, elle, va apporter de l'assistance technique, pré-investissement et aussi post-investissement. Donc, pré-investissement, c'est des cohortes qui sont accélérées, des cohortes de femmes entrepreneurs qui sont accélérées.
Et l'objectif de la WIC Academy,
voilà. Okay. Et l'objectif de la WIC Academy, c'est vraiment d'être beaucoup plus inclusif que le fond même, parce que il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui passent à travers la WIC Academy, mais qui ne sont pas éligibles pour le moment à WIC Capital anyway. Mais on est en train de générer un impact très fort, parce que c'est vraiment du renforcement de l'écosystème.
D'accord.
Et enfin, le troisième volet, donc le capital adéquat, pour nous, c'est la prise de participation, ce qu'on appelle l'equity, parce que ça permet d'être plutôt hands-on. C'est ça qui permet de mettre en place la gouvernance, voilà, d'être vraiment présent et en appui dans l'entreprise, et aussi d'être patient, parce que quand on lève de la dette, la dette bancaire, il faut rembourser très vite. Quand on lève de l'equity, l'investisseur peut rester plusieurs mois, voire années, sans toucher de cash flow. Et de retour sur investissement pendant que l'entreprise est en train de croître.
Okay.
Donc voilà.
Ok, ben merci pour ce résumé. Tu précisais que les premières femmes qui ont été à l'origine de WIC, ce sont quatre femmes, des entrepreneuses. C'était quel type de...
Non, pas du tout, parce que par exemple, on a quelqu'un comme Maggie Sock qui à l'époque était partenaire de Dahlberg Afrique. Et qui a vraiment incubé le WIC au début. Genre, on avait une consultante Dahlberg qui gérait, qui a mobilisé, qui allait recruter des membres. La réflexion sur la thèse d'investissement, c'était vraiment ce cabinet derrière. Okay. Et donc, Maddy, qui a été vraiment forte, qui a insufflé tout ça. Aujourd'hui, elle a développé Haske Ventures et Haske Conseil. Haske Conseil reste un cabinet de conseil et Haske Ventures est un venture studio. Donc, qui intervient très early stage. Vraiment en limite, en précise, je veux dire. Mm-hmm. Et voilà, qui est un acteur clé de l'écosystème, de l'investissement.
Ok, donc c'était des profils pas forcément entrepreneurs.
Non, pas du tout investisseurs. On a Tchaba Kamarasi, qui est aujourd'hui la chair de WIC Capital et qui va être mon associée, ma partenaire, dans le deuxième fonds que nous sommes en train de lever.
Okay.
Elle, c'était, à l'époque, elle était chez Deloitte. C'est la fondatrice de Deloitte Sénégal, qu'elle a géré pendant une vingtaine d'années avant de revendre et de se mettre sur des activités d'investissement. Donc, et puis on a une autre consultante en stratégie qui s'appelle Alassane Ouad, la VP de Sedima qui est un grand groupe sénégalais qui s'appelle Seynabou Sek Diawara. Et donc non, c'était pas des investisseurs, c'était pas des entrepreneurs, mais elles étaient vraiment très impliquées dans le monde des affaires.
D'accord.
Et quand on regarde les profils aujourd'hui, on a des profils de tout secteur d'activité. On a des gens de la finance, on a des chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire, dans tout secteur, qui sont aussi une vraie source de connaissances sectorielles pour le fonds. Parce que, par exemple, quand on va faire une due diligence sur un dossier, on va aller d'abord chercher l'expertise interne avant de solliciter des consultants potentiellement.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours des business qui ont moins de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires?
Oui, au moment où on investit, en général, oui, elles sont à ce stade-là, ces entreprises. En général, quand on investit, ça reste des micro-entreprises. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en moyenne, au portefeuille, les entreprises, elles multiplient leur chiffre d'affaires par 5 dans les 24 mois post-investissement. Donc, ça montre bien qu'il y a du potentiel. Et pour beaucoup d'entre elles, elles n'auraient pas forcément eu accès à du capital et pas dans les niveaux où on investit sans vrai capital. Donc, il y a un vrai apport, il y a une vraie valeur ajoutée. Et voilà, on est en train de prouver un marché. Et bon, ce qui est en train de se passer, c'est que, du coup, au bout de quelques mois, là, elles commencent à pouvoir accéder à du financement bancaire pour financer leur exploitation. Et je vais donner un exemple. On a un business qui est passé de 60 millions de francs CFA à peu près avant investissement à 400 millions. Donc là, on parle de 100 000 à moins d'un million de dollars. Un peu moins d'un million de dollars en moins de 24 mois. Et c'est vraiment, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de passer les business, enfin de passer, c'est pas nous qui faisons le travail, rappelons-le, c'est les entrepreneurs quand même. Mais avec les capitaux mis en place et l'appui derrière, l'idée, c'est que ces entreprises puissent vraiment accélérer leur croissance. Ça reste des PME, c'est pas forcément des startups.
Ouais.
Mais qu'elles puissent passer, aller de 100K à 1 million en 2 ans, ça c'est...
C'est formidable.
Oui, et en plus, ce faisant, bien sûr, il y a de la création d'emplois.
C'est ça.
Une création d'emplois significative pour des jeunes. On est sur des pays où les PME contribuent beaucoup à la création d'emplois et il s'agit de les renforcer.
D'accord. Et donc, tu disais, ça démontre, quelque part, vous êtes en train de démontrer qu'investir sur le segment des femmes qui aujourd'hui est considéré comme risqué, en fait, c'est plus une perception qui est fausse parce que vos chiffres démontrent le contraire. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste un petit peu sur justement cette tendance ou en tout cas ce focus de l'investissement sur les femmes? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un résumé ou en tout cas ton avis sur la tendance?
C'est vrai qu'il y a tu as parlé tout à l'heure de la perception de risque. Et même nous, on s'en rend compte, hein, en levant des fonds et en disant qu'on a ce focus genre, les LP, c'est-à-dire les gens, les fonds, les institutions qui investissent dans les fonds nous classent automatiquement dans la catégorie high risk, high impact, risque élevé mais impact fort. Et c'est assez frustrant parce que pour nous, ce n'est pas que de l'impact et ce n'est pas du high risk. Certes, il y a de l'impact, mais c'est du business. On a une approche commerciale. Quand on va voir un investisseur, on lui propose un retour sur investissement. Et on n'investit que dans des entreprises qui ont un vrai potentiel de croissance et un potentiel de croissance élevé parce que le coût de capital, le coût de l'equity est plus cher que la dette. Donc, quand on va prendre un investisseur, c'est qu'on est confiant, vraiment sûr de son potentiel de croissance pour pouvoir rémunérer ce capital-là. Et c'est un capital qui accélère. Et donc, nous, vraiment, on aimerait vraiment que tout l'écosystème comprenne ça. Et quand je parle de l'écosystème, c'est aussi la source de nos fonds. C'est aujourd'hui ce qui se passe sur la scène internationale. C'est que tout le monde parle de gender, tout le monde parle de gender climate, mais ils dissocient ça des approches commerciales. Pour eux, c'est OK, c'est faire du bien, quoi. Parce que c'est une approche égalitaire, etc. Okay. Et nous, ce qu'on veut pousser comme message, moi personnellement, c'est ce n'est pas que faire du bien, c'est du business. Smart, c'est potentiellement générer plus de rentabilité. Et je suis tout le temps super ravie quand je vois ce message porté par des hommes gestionnaires de fonds. Je rentre d'une formation avec des VC et donc pas mal de gestionnaires de fonds du continent. Et j'étais tellement contente quand l'un d'entre eux a pris la parole pour dire, on parlait des solo founders, des partenaires et tout. Et il a pris la parole pour dire, en fait, dans son portefeuille, il avait 3 solo founders, donc des entrepreneurs seuls qui n'ont pas de partenaire, et que c'était des femmes, et que c'était potentiellement sur ces 3 entreprises qu'il allait générer le plus de rentabilité. Et donc, ça me fait venir à la question sur la tendance. Aujourd'hui, très clairement, pour qu'il y ait plus d'argent qui aille vers les femmes, il faut qu'il y ait plus de femmes fund managers. La plupart d'entre nous, on a une optique genre, même si ce n'est pas le premier mandat du fonds, ce n'est pas le fonds de la thèse d'investissement. Une femme investisseur aura plus de chances. Il y a de fortes probabilités qu'une femme entrepreneur investisse dans une femme. Parce que mine de rien, il y a des biais que, voilà, ouais, que les gens ont, etc. Et donc, ouais, on est plus proche d'elle. Et voilà. Et c'est important que les femmes, dans tout type de fonds, montent à des positions de direction et des positions de prise de décision. Mais, donc, et la tendance aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on parle de gentleman's investing, c'est des femmes fund managers, donc gestionnaires de fonds. Mais le challenge, c'est que beaucoup d'entre nous, on est ce qu'on appelle les emerging fund managers. Donc, on est sur nos premiers fonds, deuxième fonds, et c'est comme tu vois, c'est comme des entrepreneurs qui démarrent. Quoi. Quand nous, on regarde les entrepreneurs qui démarrent versus des entrepreneurs expérimentés, c'est difficile pour nous d'aller sur les entrepreneurs qui démarrent. Et donc, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau des LPs. Et donc voilà, d'un côté, on a une solution facile, donc investissez massivement dans les femmes fund managers, mais en même temps, on voit que le capital peine aussi à aller au niveau de ces femmes gestionnaires de fonds, de sorte qu'il faudrait que les gestionnaires de fonds actuels, et dont la grande majorité sont des hommes, il faudrait que eux-mêmes s'approprient le
narratif là, quoi.
La conviction d'investir dans des femmes entrepreneurs. Et c'est pas gagné. Il y en a quelques-uns qui voient, qui ont vu la lumière. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas gagné. Okay. Et ça se traduit aujourd'hui dans les gros gaps qu'on a. Il y a très peu. Sur les startups, je pense qu'on est encore à... L'année dernière, c'était moins de 2% des startupeurs femmes.
C'était des femmes,
ouais. Donc, sur toutes les startups qui ont levé, il y avait moins de 2% qui étaient des femmes.
Sur le continent.
Femmes ou des équipes mixtes sur le continent africain. Sur le premier semestre 2023, je pense qu'on est un peu plus de 2%, on est à 2,2% selon.
Ouais, c'est toujours petit, quoi.
Qu'on a. Donc c'est ridicule. C'est micro et c'est alarmant, quoi. Donc ça montre que voilà. Je pense que le travail à faire est au niveau des fund managers actuels, parce que nous, entre femmes, on est convaincus. Mais du coup, c'est pas nous qui détourons la majorité du capital à déployer pour le moment. Les gros décideurs, les gros allocateurs, au moins deux actions à mener en parallèle. Être plus inclusif dans l'industrie et vraiment investir dans des équipes de gestion de fonds féminines. Et insister sur le critère genre au niveau des fund managers qu'ils ont dans leur portefeuille. Et quand je parle de critères genre, il ne faut pas se limiter aux critères 2X qui sont très, très inclusifs parce que dedans, on a tout. On a le leadership féminin, on a les femmes sur la chaîne de valeur, on a les employés, les femmes comme consommatrices. Il faut insister sur le critère de female leadership que les entreprises les fonds de leur portefeuille allouent un certain pourcentage de leur capital, de leur fonds, à des équipes féminines ou mixtes. En fait, l'objectif de 2X, c'est vraiment de faire en sorte que la moitié de la population mondiale ne soit pas laissée pour compte et que tous les financements qui sont faits au niveau mondial bénéficient aux femmes. Donc, du coup, les critères sont larges parce qu'il y a plusieurs façons de bénéficier aux femmes. Ça peut être effectivement les femmes à des positions de leadership, donc les femmes comme entrepreneurs, les femmes comme employées, s'assurer que les entreprises financées sont inclusives dans leur politique de recrutement et de promotion. Les femmes comme consommatrices, il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui ne prennent pas en compte les femmes, qui sont designés dans une optique
par les hommes. Les femmes.
Et ça, pour le coup, cette partie-là, pour moi, c'est juste... toutes les entreprises devraient en prendre en compte parce que on est 50% des consommateurs. Si tu designes un produit sans prendre en compte 50% de la population,
tu te coupes.
Tant pis pour ton business, quoi. Ça fait du sens commercial de designer tout type de produit, tout type de service pour accommoder ces 50%. Et puis l'autre critère, c'est les femmes sur la chaîne de valeur, être une entreprise qui est intentionnellement financer des entreprises qui intentionnellement se sourcent auprès d'entreprises dirigées par des femmes. Et ça permet de renforcer économiquement les femmes globales. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on a observé et notre expérience, c'est que finalement, quand on investit dans une entreprise dirigée par des femmes, automatiquement, tous ces autres points sont pris en compte. L'inclusion dans le recrutement, dans l'approvisionnement, dans la conception des produits, etc.
Parce qu'il n'y a pas le biais au final. En fait, ce biais-là inconscient.
Exactement. Et il y a aussi beaucoup d'intentionnalité, je trouve, au niveau des entrepreneurs femmes, dans l'impact. Elles sont toujours en train de... Elles réfléchissent toujours à comment impacter positivement leur communauté.
Et c'est intéressant ce que tu disais, comment, en fait, pour certains, gender lens... c'est un nice to have dans le sens où c'est du marketing alors que derrière les chiffres prouvent que c'est aussi dans l'intérêt économique de chaque
business,
partie prenante.
C'est juste smart. Mmh. Moi j'aime aussi le terme gender smart. Voilà, c'est intelligent quoi, c'est une façon intelligente de faire du business.
Ouais.
Et je pense qu'en fait aujourd'hui ce qui freine ça, franchement, malgré tout, il y a des données, tout ce que je viens de dire là, il y a des rapports, il y a des chiffres, mais c'est difficile d'intégrer ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être parce que c'est nous-mêmes qui parlons plus de ces chiffres-là. Mm-hmm. Donc, du coup, les hommes n'intègrent pas forcément ça. Il faut vraiment qu'on ait des champions masculins. Mm-hmm. Et quand on parle de gender lens, que la salle... qu'on va sur une conférence gender, sur le gender lens investing, qu'on fasse en sorte que ces salles-là soient mixtes et pas que... Exactement. Parce qu'on se comprend, on est déjà convaincus, on connaît, on a lu les trucs, etc. Donc, on s'assure que la moitié de la salle soit au moins masculine, je pense.
Mmh. Ouais. Bon, mais en tout cas, on a l'impression que c'est en train de changer, trop lentement, bien évidemment, mais... Mais tu parlais d'un homme qui mettait en avant des exemples de femmes qui étaient des réussites dans son portefeuille. Donc, il faut qu'effectivement ce message soit amplifié. Donc, c'est peut-être l'occasion pour toi de partager avec nous des exemples d'investissement que vous avez fait avec le WIC et comment ce sont devenus des success stories.
Alors, on est encore très tôt dans le portefeuille, mais j'en ai donné un tout à l'heure. Ouais. On a investi dans plusieurs secteurs d'activité. Mm-hmm. Pas mal quand même sur la chaîne de valeur agricole, qu'il s'agisse de tout ce qui est food, de tout ce qui est transformation, distribution. Mm-hmm. On a investi dans le secteur de la mode. On a testé le secteur des industries créatives. On a investi dans une activité de recyclage. Et aussi dans des services. Ça, c'est un investissement que j'aime beaucoup. Les services à la personne. Parce que l'impact est juste génial au-delà du business. Fournir, créer des emplois en masse pour des jeunes et donc en faire des emplois qualifiés parce que c'est des gens qui sont formés au service à la personne, que ce soit la garde d'enfants, mm-hmm. qui est ménage, cuisine. Mm-hmm. Et d'autre part, l'autre impact, ben, c'est l'impact sur la population aussi de femmes actives, le nombre de femmes qui sortent qui arrêtent leur carrière parce qu'elles ne trouvent pas des services de soins de qualité. Mm-hmm. Donc, pour nous, c'est forcément en tant que fonds mis en place par des femmes, géré par des femmes, ça faisait total sens
d'aller dans cette
industrie. Dans une entreprise comme Calinum.
OK. Okay.
Et donc pour revenir aux success stories, donc comme je l'ai dit, hein, ces entreprises-là, systématiquement dans les 24 mois post-investissement, c'est chiffre d'affaires multiplié par 5, avec bon, bien sûr des outliers qui font plus que ça comme croissance, des valos qui sont doublés. En termes de création d'emplois aussi, c'est en moyenne 25 emplois par PME. Et rappelons que nos tickets, en moyenne, sur ce premier fonds, nos tickets allaient de 50 000 à 500 000 euros. Donc, ça fait finalement une création d'emplois très intéressante. Là, on projette rien que sur les 7 premières sur lesquelles on a fini 2022, on projetait 3 000 emplois à créer sur les 6 ans où on sera au capital de ces sociétés-là. Mm-hmm. On est en train de poser des deals super intéressants. On en parlera au moment venu, toujours dans la transformation chaîne de valeur agricole, mais sur des niveaux d'industrialisation, des projets, des produits destinés à l'export, qui vont servir aussi la sous-région, etc. Donc, on est vraiment excités par par le type d'investissement qu'on est en train de faire et qu'on espère continuer de pouvoir faire avec ce deuxième fonds qui sera un peu plus large et qui va vraiment cibler significativement aussi la Côte d'Ivoire. On est en train de lever un fonds de 30 millions d'euros que cette fois-ci, on va structurer de façon beaucoup plus classique, donc en limited partnership au lieu de structure locale.
OK.
Et là, maintenant, le challenge, c'est vraiment de convaincre ces investisseurs dont j'ai parlé, là, les investisseurs internationaux, de l'aspect commercial de nos activités.
Et du retour sur investissement que vous pouvez
procurer. Exactement. Et ça, c'est vraiment un engagement qu'on prend parce qu'il faut qu'à la fin de la journée, quand on aura fini, même si on décide après de passer sur une autre thèse ou de diluer le critère genre, à la fin de la journée, ce qu'on veut montrer au niveau du WIC, non, même plus de WIC Capital, mais au niveau de l'association dont je suis aussi membre, c'est que les femmes, on n'est pas des cas sociaux, quoi. on ne cherche pas de l'aide, on veut juste que
démontrer que c'est
sur le réel business. Quoi.
Ouais, ok. Et du coup, quand est-ce que vous allez... parce que des structures comme ça dans la sous-région, on en a besoin. Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de pays sur lesquels, en fait, vous pourriez vous positionner. Est-ce que ça fait partie de vos plans futurs de répliquer
en fait,
ça peut-être
oui, clairement. Ouais. Le WIC va se répliquer, ça c'est sûr. On a été approché par des femmes de plusieurs pays, de la sous-région, de l'Afrique centrale, même en Afrique, genre au Rwanda.
Okay.
Et il y a une forte demande de répliquer le modèle et on est vraiment en train de travailler dessus. Activement, on a de l'appui même de certains de nos partenaires financiers au niveau du WIC pour répliquer le modèle. Après, c'est quelque chose qu'on veut faire de façon très raisonnée parce que, il faut aussi prendre en compte les différences de pays, les différences culturelles. Donc, on va recruter un consultant qui va nous aider à voir comment répliquer au mieux, qu'est-ce qu'on réplique. Est-ce qu'on réplique les trois structures, c'est-à-dire le WIC, la WIC Academy, WIC Capital? Est-ce qu'on part sur un fonds plus gros, plus régional? Enfin, par exemple, il y a le Bénin qui est déjà prêt. On a des femmes en RDC. À l'époque, il y avait la Guinée. Je pense qu'on avait parlé à des femmes là-bas. Les fondatrices étaient même allées, la Guinée qu'on a créée. Le Gabon, à un moment, le Cameroun. Je pense qu'on a eu plein de discussions. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. On y est vraiment ouverte. Et voilà, il faut que ce soit un mouvement continental, clairement.
Ah oui, ça peut aussi, nourrir tous les chiffres, justement, autour de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et comment en fait changer cette perception du risque comme tu le disais et d'autant plus que tu donnais un exemple d'une structure dans laquelle vous investissez et qui maintenant peut aller chercher du crédit bancaire là où c'est encore compliqué pour les banques de se positionner sur les entreprises de petite taille donc ça démontre aussi le caractère, catalytique. Est-ce que tu serais d'accord avec ce mot-là?
Oui, clairement, totalement catalytique. On est dans la création de marché.
Ouais. Oui. Super. Et du coup, c'est quoi le WIC dans 5 ans, dans 10 ans? On vient d'en parler peut-être juste à l'instant, mais comment tu vois en fait le marché évoluer, multiplier ce mouvement que vous faites au Sénégal, en Côte d'Ivoire, le répliquer sur la sous-région? Est-ce que tu as d'autres choses en tête pour les prochaines années?
Alors le WIC dans 5 ans, du coup là je parle pas pour le WIC, je parle pour la personne que je suis, Evinja.
Ouais.
À la tête de la société de gestion du fonds, c'est pour moi dans 5 ans on aura au moins 2 autres WIC, on sera au moins 4 WIC en Afrique, à voir si on est dans la même zone de monnaie, pourquoi pas un fonds plus large qui cible ces pays avec des équipes locales. Et puis, moi, j'aimerais bien voir le WIC comme sponsor du fonds évoluer en fondation. Donc le WIC Sénégal, pas WIC Capital, WIC Sénégal, WIC Côte d'Ivoire, etc. Évolue en fondation, donc un peu plus large. Bien sûr, la WIC Academy répliquée dans chacun des pays. La partie assistance technique. Aujourd'hui, au WIC Sénégal, au Sénégal, la WIC Academy a déjà accompagné 200 entrepreneurs. Donc c'est du pipeline pour d'autres institutions financières. C'est des entreprises qui, dans 5 ans, voilà, seront à un autre niveau, qui sont peut-être encore micro aujourd'hui, mais dans 5 ans, à un autre niveau, en train de créer de l'emploi, créer de la richesse. Voilà. 5 ans, ça passe vite. Beaucoup de choses peuvent se passer dans 5 ans.
Tout à fait d'accord avec toi.
Et clairement, au niveau du fonds, dans 5 ans, on est déjà en train de lever un troisième fonds.
Ok, bah c'est, donc on est vraiment sur un mouvement qui va perdurer. Donc ça c'est bien. Et puis avec le côté impact investissement, impact investing, est-ce que bah c'est une question pour toi d'ailleurs, est-ce que tu vois de plus en plus de nouveaux LPs intéressés par votre modèle?
Oui, enfin, je l'espère parce que, en fait, je pense que aujourd'hui, on a énormément de traction, on suscite beaucoup d'intérêt. C'est un modèle unique, bien pensé, en ligne avec le marché. Mais les challenges pour la levée de fonds sont là parce que on est considéré comme emerging first manager, c'est-à-dire nouvel investisseur quoi sur le marché, donc avec les risques que ça implique pour eux, parce que le métier de gestion de fonds même. Quel que soit notre track record, Chaba et moi, le métier de gestion de fonds est un métier très spécifique avec des challenges très spécifiques. Donc forcément, quand on va sur le marché pour lever des fonds, c'est compliqué. Il faut convaincre. Et dans 5 ans, on aura effectivement nos exits et on pourra démontrer effectivement le retour à nos propres investisseurs sur le fonds 1, par exemple. Et là, a priori, si ça se passe bien, ça veut dire plus de fonds. Aujourd'hui, il y a de nouveaux investisseurs, comme tu disais, sur le marché, mais ils sont encore très, très hésitants, dans le sens où il y a une volonté de faire du gender, mais les outils en place et les critères en place classiques ne matchent pas. Une DFI, c'est les institutions de financement international qui investissent le mieux et le plus en Afrique. En général, elle investit peu dans ce qu'ils appellent un first time fund manager. Ils investiront dans un fonds, ils vont dire minimum 50 millions d'euros. Donc nous, on est en train de lever 30 millions et ça aussi, ça a été bien pensé. Parce que nos cibles en face, comme je le disais tout à l'heure, le marché, c'est que les entreprises, c'est les petites entreprises avec des niveaux de chiffre d'affaires bas. Et il n'est pas question d'apporter des tickets de 4 millions, 5 millions. Or, si on lève un fonds de 5 millions, de facto, on se décale de cette cible-là et on commence à diluer notre channel de lens. Et donc, pour nous, c'est important de lever un fonds de la taille en ligne avec le marché. Cette taille-là ne correspond pas forcément à ce que les investisseurs veulent. Donc, il y a aussi un métier un travail de conviction à faire à notre niveau pour qu'ils acceptent de sortir de leur case.
Un peu de lobby, cas, quoi.
Oui. Et donc pour nous aujourd'hui c'est ça les deux gros challenges, c'est la taille du fonds et le fait qu'on soit emerging fund manager. On est emerging fund manager jusqu'à son troisième voire son quatrième fonds. Et effectivement les exits aujourd'hui on n'a pas encore fait de sortie d'investissement. Notre portefeuille est très jeune, on a commencé à investir en 2020. On a décidé de lever un deuxième fonds parce que la réalité c'est que un véhicule local, comme on l'avait structuré, ne peut pas attirer le niveau de capital qu'il faut. Et donc, on a décidé d'être un peu plus classique dans la forme en maintenant notre stratégie qui reste atypique. Et il s'agit de convaincre sur ça. Donc, aujourd'hui, c'est super challenging pour nous, mais on se bat. Et dans 5 ans, on espère que le pool va s'ouvrir un peu plus et que du coup, ces LPs-là, ces fameux LPs, traduiront leur intention en acte en notamment modifiant un peu certains critères. Et donc ça c'est un point que je souligne régulièrement quand je prends la parole sur des conférences de l'investissement, c'est que il y a un mismatch finalement entre la façon classique d'investir à leur niveau et ce dont le marché a besoin.
Il faut continuer le lobbying comme tu dis
à fond.
Ok. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Ma dernière question, est-ce que tu as une personne en tête qui pourrait être pertinente pour le podcast ?
Alors, tellement de personnes, j'ai dû parler de Maddy tout à l'heure, Maddy Sock, qui est une des cofondatrices et qui a développé un venture studio appelé Husky Ventures. Je pense que c'est intéressant de comprendre ce modèle qui, à mon avis, fait beaucoup de sens dans nos écosystèmes francophones où tout est naissant, en fait. Et puis, quelqu'un comme Chapa Kamarasi aussi, qui a un parcours extrêmement intéressant. Sur l'échelle plus africaine, tu m'as demandé, ah non, je vais t'en donner 5.
Ah, mais go for it, il n'y a pas de souci. Vas-y, je suis en train de prendre des notes.
Oui, je pense des gens, des VC investors, des gens comme Anna Soubaï qui vient de rejoindre l'Ange Capital. Et puis j'en ai des anglophones, bien sûr, c'est les plus présents sur le métier. Mais oui, on a quelques francophones qui émergent. Je pense que c'est bien d'avoir des VC, quelques pays, et puis des gens un peu in between comme nous.
Ok, okay. Bah, c'est top, merci pour ces noms-là. Je suis ravie de t'avoir reçu sur Africa's Investor Call. Le genderless investing a malheureusement pas assez de visibilité et je suis très contente de pouvoir faire un épisode dédié à ça. Surtout que, comme tu le disais, c'est pas juste de l'impact pour faire de l'impact, c'est de l'impact qui se traduit en réalité économique. Donc, c'est de l'impact réel.
En fait, si on peut, je pense que cet impact-là, économique réel, on peut aussi le traduire autrement. Concrètement, on est 50% de la population. Et il faut pas, on peut pas miser que sur l'autre 50% de la population pour développer l'Afrique. Donc, miser sur les femmes qui sont éduquées, qui ont le potentiel, qui sont des êtres humains à part entière, autant qu'on mise sur l'autre partie de la population, c'est juste accélérer, en fait. C'est un moyen d'accélérer. Mmh. Rien que sur la base de cet argument, ça peut être évident pour tout le monde.
C'est vrai. C'est un super argument, et c'est vrai, parce que ce serait stupide de ne pas compter sur la moitié de la population quand on a besoin de justement d'aller plus vite, quoi.
Merci en tout cas, beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi. Et puis, je continuerai d'écouter tes podcasts avec beaucoup de plaisir.
Super. Ben, merci beaucoup, Evelyne. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com, demlen.com, afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. À très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.